Masha. Est-ce que ça marche? Oui. Bienvenue à tous pour notre dernier culte au foyer de l'âme avant la fermeture de l'été. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur comme dans votre vie. Dieu nous accueille, il se réjouit de nous voir tous réunis. C'est lui qui nous a cherchés avant que nous le cherchions. C'est lui qui nous a connus avant que nous le connaissions. Et c'est lui qui nous a invités avant que nous ne venions ici. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit, comme tu l'as promis par Jésus-Christ, pour nous et nos enfants et tous ceux qui vivent au loin et que tu appelles. Je vous invite à vous lever. Alors donc, tous les cantiques aujourd'hui sont dans nos cœurs te chantent. Je précise pour vous rassurer que autant en ce qui concerne la liturgie qu'en ce qui concerne les cantiques, j'alternerai entre diverses possibilités. Donc s'il y a des choses qui vous gênent, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez ardemment entendre un cantique que vous n'avez pas entendu depuis 10 ans, n'hésitez pas non plus à me le dire. Aujourd'hui, donc, les cantiques utilisés se trouvent dans Nos cœurs te chantent et nous allons reprendre des strophes, c'est-à-dire que nous allons commencer par chanter la première strophe du cantique 249 et vous voyez qu'il y a un petit espace, donc vous le garderez en main parce que nous chanterons la deuxième strophe après la louange. Donc nous allons commencer par chanter la première strophe du cantique 249 sur ton Église universelle. Esprit Saint, souffle de Dieu, toi qui murmures, toi qui décoiffes. Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête, tu as quelque chose de large et d'ouvert, tout le contraire du renfermé, de l'étouffant. Tu souffles où tu veux, on entend ta voix, mais on ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu souffles la vie, tu renouvelles la face de la terre. Tu aimes déranger ce qui est installé et tu ne cesses de relancer ce qui s'arrête. Tu ouvres portes et fenêtres, tu fais éclater les ghettos et quitter les nids trop douillets de la sécurité. Tu réveilles, tu secours, tu envoies et tu rassembles. Tu rajeunis ce qui est sclérosé et tu fais courir les boiteux. Esprit Saint, souffle de Dieu, nous te chantons. Et nous chantons l'Esprit avec la deuxième strophe de ce même cantique, 249. À vous asseoir. Vous pouvez préparer le psaume 91 que nous chanterons en trois fois. La strophe 1 après la volonté de Dieu, les strophes 2 et 3 après la prière d'humilité et les strophes 4 et 5 après l'accueil du pardon. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et qu'il nous donne la force de faire. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne servirait plus à rien. On ne pourrait que le jeter dehors et les gens marcheraient dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous prenons la première strophe donc du psaume 91. Alors je voudrais juste dire un petit mot, vous pouvez rester assis, comme vous voulez en fait. Je voudrais juste dire un petit mot sur ce psaume. Il est rempli d'images très poétiques. Il parle de l'intimité de l'être humain, l'intimité rendue possible et de temps à autre avec Dieu. Et il en parle de manière imagée, poétique, avec des images, bien sûr, du temps de sa rédaction, au moment où il a été conçu, chanté, écrit.
Qui éprouve un secret.
Unissons-nous dans la prière d'humilité. Père, nous gardons quelques instants le silence devant toi. Nous avons cru être justes par nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours laissé ton esprit agir en nous. Nous n'avons pas été le reflet de ton image, le miroir de ta bonté et de ton amitié. Nous n'avons pas été tes serviteurs au sein de ta création. Nous n'avons pas été les artisans de ta réconciliation. Mais fais toi-même le tri, Seigneur, car nous désirons vivement t'être fidèles et marcher selon ta justice. Nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos petites mesquineries, qu'il entraîne nos volontés défaillantes, que ta joie nous attende, car tu es un Dieu de vie et tu aimes notre humanité. Amen. Nous allons chanter les strophes 2 et 3 du psaume 91.
Du fil tendu soute pas son amour te délivre, il te défend dans les combats que l'ennemi te livre.
Et je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos compromissions. Et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple et je serai pour vous Dieu. Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Chantons-lui notre reconnaissance avec les strophes 4 et 5, toujours du psaume 91. Et je vous invite à rester debout, car en réponse à cet amour que Dieu ne cesse de nous manifester par son pardon, je vous propose de confesser notre foi. Alors nous, là aussi, nous changerons régulièrement, mais pour cette fin d'année scolaire, je vous propose de reprendre la confession de foi d'après le pasteur Wagner, que vous avez sur la feuille qui était dans les livres de culte. J'espère que j'en ai imprimé assez. Non, pas dans le livret bleu. Dans le... S'il en manque, peut-être vous pouvez en partager. Ça nous permettra de la dire ensemble. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez la dire avec moi. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie, au fond des cœurs endurcis la bonté fraternelle, au fond des cœurs errants et pleins d'ombre la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agite aussi, neuf, inédit, surprenant, dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'Esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ses profondeurs, où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté existait avant même que ne retentissent les mots « que la lumière soit ». Je crois qu'il demeurera à jamais et je l'appelle Christ. Amen. Je vous propose de reprendre le cantique 249 et nous allons cette fois chanter la strophe 3. Alors aujourd'hui, vous allez avoir quelques surprises, c'est la fin de, voilà, nous sommes déjà dans l'été, et donc vous allez avoir une prédication en deux parties, avec une première lecture biblique que je ferai, et les autres aussi, car je me rends compte que j'ai oublié de les donner, je suis désolée, à moins qu'il y ait deux volontaires, non, c'est trop tard. C'est trop tard, je les ferai. Donc, avec une première lecture biblique tirée de l'Ancien Testament, une première partie de prédication, les deux autres lectures, ce sera exceptionnel, excusez-moi. Je tiens toujours beaucoup à ce que les lectures bibliques soient faites par des membres de la communauté. Et donc, une deuxième partie de la prédication. Mais d'abord, nous prions avant d'ouvrir les Écritures, pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Jésus, nous voulons être des hommes et des femmes qui veillent, qui attendent ta venue. Nous voulons être de ceux en qui la puissance de ton espérance est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Réveille-nous, Seigneur, ne nous laisse pas dormir. Tu dis ta parole puissante, toujours, à nouveau, à travers les âges, donne-nous des oreilles pour l'entendre. Amen. Donc je commence par vous lire quelques versets du chapitre 11 du livre du Lévitique. Ce sont des versets, j'ai raccourci, le chapitre 11 est très long. C'est juste pour que vous ayez une idée plus précise de ce dont il va être question dans la suite des lectures. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux fils d'Israël. Parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux que vous pourrez manger. Tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en deux ongles et qui rumine, vous pourrez le manger. Cependant, parmi les ruminants et parmi les animaux ayant des sabots, vous ne pourrez pas manger tous ceux qui suivent, et je vous épargne la longue liste de tous ceux qui suivent. Tout quadrupède qui a le sabot non fendu ou qui ne rumine pas sera immonde pour vous. Quiconque le touchera sera impur. Parmi tous les animaux aquatiques, vous pourrez manger ceci. Tout animal aquatique de mer ou de rivière qui a nageoire et écaille, vous pourrez le manger. Mais tout ce qui vit dans l'eau, sans avoir de nageoire ni d'écailles, sera immonde et impur pour vous. Et voici, parmi les oiseaux, ceux qui suivent seront immondes pour vous et qu'on ne mangera pas, car ce sont des choses impures. Suit une longue liste que je vous épargne. Parmi tous les petits animaux qui foisonnent sur la terre ferme, ceux qui suivent seront impurs pour vous. Telle est la loi concernant les animaux, les oiseaux, tout être vivant qui remue dans l'eau et tout être vivant qui foisonne sur la terre. Alors nous allons poursuivre aujourd'hui la réflexion que nous avons commencée dimanche dernier sur les débuts des premières communautés chrétiennes et leur ouverture aux non-juifs. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons parlé de la rencontre fort improbable et pourtant tellement riche du diacre Philippe avec le haut fonctionnaire eunuque de la reine d'Éthiopie et le baptême de ce haut fonctionnaire. Aujourd'hui, vous allez entendre une lecture un peu plus longue qui traite également du rôle de l'Esprit dans la naissance de l'Église. Mais, comme dimanche dernier, l'Esprit, vous allez l'entendre, est bien présent, même s'il n'est pas forcément à l'œuvre exactement de la manière décrite par Luc, car vous savez que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Je commence par un tout petit peu de géographie et je me décale pour que vous voyez mes mouvements. L'histoire que nous allons entendre et commenter se passe entre deux villes de Palestine, bien sûr, deux villes de la côte qui existent encore aujourd'hui. Césarée et Jaffa, qui s'appelle à l'époque Jaffé. Et c'est un port très ancien. Vous vous souvenez que c'est de là que Jonas va se sauver quand il ne voudra pas répondre aux injonctions du Seigneur. Donc, Césarée est un petit peu au-dessus, environ à 50 km au-dessus de Jaffé. Et puis, plus tard, on va nous parler de Jérusalem. Pierre ira de Jaffé, de Jaffa, à Jérusalem. Jaffa, aujourd'hui, c'est le port de Tel Aviv. Donc, il y a également une cinquantaine de kilomètres, mais cette fois, dans l'intérieur des terres. Césarée, qui est en fait aujourd'hui une ville uniquement archéologique, un site touristique, mais qui était une ville, comme son nom l'indique, construite par un empereur romain, César, en dessous Jaffé et Jérusalem. Quand cette histoire se produit, tous les chrétiens, on en a déjà parlé la semaine dernière, sont encore d'origine juive. Les premières communautés chrétiennes sont des communautés judéo-chrétiennes, des communautés composées de juifs qui se sont convertis au Christ et qu'on appelle même quelquefois des circoncis convertis. Eh bien, aujourd'hui encore, nous allons entendre l'histoire d'une rencontre improbable. Voici à Césarée le centurion Corneille, un centurion qui a une centaine d'hommes sous ses ordres. Celui-ci appartient à cette légion qu'on appelle la Légion Italique et qui occupe la Judée, toute la Judée. C'est une légion d'environ 6000 hommes. Et la plupart de ces hommes, on peut l'imaginer, ont été envoyés en Judée. Ils n'y sont pas forcément allés de gaieté de cœur. Il devait y avoir beaucoup d'autres endroits pour les soldats romains où ils avaient plus envie d'aller que dans cet endroit perdu où on les détestait. Et donc, la plupart des soldats romains n'aiment pas beaucoup les Juifs. Mais, justement, le centurion Corneille, lui, il aime les Juifs, il est craignant Dieu, il cherche un petit peu à comprendre ce que c'est que cette religion du Dieu unique, du peuple juif. Il a même peut-être entendu parler du Christ, même si le texte ne nous le dit pas. Mais c'est un soldat romain qui aime le peuple juif et qui essaye de l'aider. Et voilà que le centurion Corneille a une vision. Il a la visite d'un ange qui lui dit de faire venir un certain Simon, appelé Pierre. Et ce centurion Corneille ne se pose aucune question. Il obéit et il va chercher Simon Pierre. Ça nous dit bien sûr quelque chose, nous, Simon Pierre. Il l'envoie chercher au lieu d'aller le rejoindre parce qu'il est assigné à résidence, bien sûr. Enfin, il est obligé de rester à son poste. Donc il ne peut pas, lui, aller rejoindre directement Simon, qui, lui, est à Jaffé, 50 km plus bas. Voilà. Donc, ces personnes sont en route pour rejoindre Simon-Pierre. Et pendant ce temps-là, Pierre lui-même, le lendemain, il est hébergé chez un tanneur à Joffé et il est monté sur la terrasse de la maison. Et c'est bientôt l'heure de déjeuner. Pierre commence à avoir faim. Mais comme le repas n'est pas prêt, il attend sur la terrasse et il s'est mis à prier. Il contemple le ciel ouvert et lui aussi a une vision, mais une vision incroyable, une extase. Il voit une grande toile tendue à plat dans les airs, comme une nappe couverte d'animaux comestibles, de la volaille, des reptiles, des mammifères, peut-être même si le texte ne le dit pas, peut-être même des porcs. Et il entend une voix céleste qui lui ordonne de tuer ces bêtes et de les manger. Oui, mais voilà, tous ces animaux, ce sont ceux qu'il est absolument interdit de manger dans la religion juive, on vient de l'entendre. Le Lévitique est rempli de ces interdits. Ces aliments sont considérés comme immondes et impurs depuis des siècles. Alors bien sûr, quand Pierre entend la voix céleste lui dire de manger, il proteste, il dit « Jamais, Seigneur, car de ma vie, jamais je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et là, stupeur, au lieu de le féliciter, « Ah bien, tu as raison Pierre, tu es un bon juif. » La voix lui fait des reproches. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne va pas, toi, le déclarer impur. » Et la scène se répète 3 fois. Et Pierre n'y comprend pas grand-chose. Et quand il retrouve ses esprits et qu'il se retrouve là sur la terrasse, il n'y comprend rien non plus. Mais voilà, ce n'est que le début d'une histoire, une histoire magnifique, une histoire fondamentale, une histoire qui va bousculer les communautés judéo-chrétiennes et permettre la naissance de l'Église. Alors nous allons écouter cette histoire, telle que Luc la raconte dans les Actes des Apôtres. Et ensuite, après la lecture, nous entendrons un musicien, Michel Pitchmi, qui est un musicien de rue qui travaille beaucoup avec notre ami pasteur d'Aubervilliers, Georges Letellier, et qui a proposé de nous jouer un petit intermède musical, justement, entre la lecture biblique et la prédication, la deuxième partie de la prédication. Comme Pierre réfléchissait à la vision sans savoir quoi en penser, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 17 à 47. L'Esprit lui dit, « Il y a là 3 hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « C'est moi que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous ici ?» Ils répondirent, « Le centurion Corneille, un homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un Saint-Ange. Il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. » Alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques frères de Joffé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses amis et les gens de sa parenté. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, lorsque vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Et je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit, « Il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi à la 9e heure, soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Quand il sera arrivé, il te parlera. Envoie donc quelqu'un appelé à Joffé Simon, surnommé Pierre. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un et toi tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. Alors Pierre prit la parole. Je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé, comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui là où il passait faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a réveillé le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ? Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Permets qu'elle éclaire notre chemin.
Thank you.
Alors, c'est... ça va le son ? Cette histoire qu'on vient d'entendre, on l'appelle habituellement l'histoire de la conversion du centurion Corneille. Et c'est normal, Corneille aimait déjà le peuple juif, il s'intéressait au Dieu d'Israël, et voilà qu'il a reçu par l'intermédiaire de l'ange, puis par sa rencontre avec l'apôtre Pierre, il a reçu la révélation que ce Dieu était tout proche. Et puisque même si le texte ne nous le dit pas en toutes lettres, on comprend qu'il a découvert la présence de Christ dans sa vie, cette présence qu'on appelle la grâce. Et nous savons bien que le baptême qu'il va recevoir manifestera justement cette grâce aux yeux de tous les croyants. Et même s'il ne peut pas faire le chemin lui-même jusqu'à Joppé pour rejoindre Pierre, en le faisant chercher et surtout en allant à sa rencontre, c'est déjà une manière, bien sûr, de chercher à se rapprocher de lui. Mais en réalité, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà en l'annonçant, ce que cette histoire magnifique nous raconte, je crois que c'est surtout la conversion de Pierre lui-même, une conversion qui va avoir une importance fondamentale, qui va bouleverser tous ses principes religieux et qui bouleversera encore plus toutes les premières communautés chrétiennes. Et peut-être aussi que cette histoire a été écrite justement pour justifier des bouleversements qui existaient déjà, qui étaient déjà en train de se produire, pour les expliquer. Et c'est bien possible, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces communautés étaient composées de juifs convertis au Christ, c'est-à-dire des juifs baptisés, mais qui continuaient à pratiquer les obligations rituelles et les interdits alimentaires. Et surtout, c'est important, des gens qui croyaient que le Christ était venu seulement pour les juifs, pas pour les autres. Alors bien sûr, vous vous en doutez, l'histoire ne va pas s'arrêter là où je me suis arrêtée dans la lecture, quand Pierre ordonne que le centurion romain Corneille reçoive le baptême. Ça, c'est la fin du chapitre 10. Mais pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, aller chez Corneille, manger avec lui, le baptiser, toutes ces actions qu'a faites Simon-Pierre étaient encore plus scandaleuses que le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe. Et là maintenant, c'est Pierre. Et pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, Pierre dépasse les bornes. Les gens ne comprennent pas. Alors quand vous rentrerez chez vous et que vous relirez ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous lirez aussi la suite, le début du chapitre 11. Et vous verrez qu'après cette histoire, Pierre a été carrément convoqué par les autres apôtres et les frères. On connaît cet amour fraternel. Et les frères de Jérusalem pour s'expliquer. Et ça ne s'est pas passé tout seul. Tu es entré chez des incirconcis notoires et tu as mangé avec eux. C'est le verset 3 du chapitre 11. Et Pierre sera obligé de raconter à nouveau, c'est la troisième fois qu'on la lira, sa vision, de tout leur raconter, pour qu'ils retrouvent leur calme et qu'ils disent à la fin, avec un profond étonnement, « Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. » Et oui, voilà le sens profond de cette histoire. Et nous savons bien que c'est une histoire absolument fondamentale pour nous, puisqu'elle va transformer ces petites sectes judéo-chrétiennes et leur permettre de devenir tout simplement l'Église universelle. Mais pour que cette transformation soit possible, il a fallu cette conversion de Pierre. Et je voudrais juste que nous la regardions d'un tout petit peu plus près, à la fois comme un événement théologique et comme un exemple à suivre. L'Esprit parle à Pierre et lui dit « Descends et pars sans hésitation ». Il le bouscule déjà. L'Esprit, le même qui a déjà secoué tous les apôtres à la Pentecôte. Et vous l'avez entendu, à la fin de ce chapitre 10, on assiste à une nouvelle Pentecôte, une Pentecôte pour les incirconcis. Incroyable, l'Esprit qui vient maintenant de lui envoyer cette vision épouvantable, tous ces animaux impurs, L'Esprit qui lui a dit qu'il devait les manger, même pas qu'il devait, qu'il pouvait, mais qu'il devait le faire. Je pense qu'on a du mal à imaginer le traumatisme. Parce que ce que Pierre a vu et entendu, c'est tout simplement le contraire de ce qu'il avait toujours appris. Le contraire de tout ce qui est prescrit dans la Torah. Et en particulier, on l'a entendu, dans le Lévitique. Parce que je vous ai fait un abrégé, hein, mais on en trouve des pages et des pages sur les animaux et les aliments purs et impurs. Et aussi sur l'impureté des humains. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est que devant cette manifestation de l'Esprit, Pierre n'a presque pas, j'allais dire il n'a pas, mais il n'a presque pas discuté. Bon, il a dit trois fois, non, jamais, mais quand il a compris que c'était sérieux, il n'a pas discuté. Il ne comprenait pas la vision, et à la fin, il ne la comprenait toujours pas. Et pourtant, dans cette vision qui le dépassait, il a reçu un message divin. Et il aurait très bien pu le rejeter, penser qu'il venait du diable, continuer à protester. C'est ce qu'on fait le plus souvent, hein, y compris en Église, dans l'histoire de l'Église, on le sait très bien. S'il y a un changement qui se profile, quelque chose qui peut nous paraître dangereux, eh bien si on ne veut pas, si on n'est pas capable de l'accepter, on va dire c'est diabolique, c'est très mauvais, c'est l'inverse. Voilà. Eh bien, il aurait pu, non. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Pierre, qui est souvent d'un naturel impulsif, qui réagit au quart de tour, eh bien là, il a accepté. Et peut-être que c'est parce que, je crois en tout cas, sa fréquentation du Christ, ce qu'elle lui a enseigné avant tout, c'est à écouter et à chercher ce que Dieu attend de lui. Et non seulement il a écouté, mais il s'est laissé transformer par ce message. Aujourd'hui, on dirait il s'est laissé déplacer. C'est un mot qu'on aime bien dans l'Église protestante unie de France. Moi aussi, je l'aime bien. Il s'est laissé déplacer, déplacer spirituellement, déplacer psychologiquement et déplacer physiquement, puisqu'il est allé lui-même à Césarée. Et il le dit, « Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Et c'est pourtant écrit dans la Bible, dans la Torah, à plusieurs endroits, en toutes lettres. Et voilà que Dieu lui a montré que ces différences entre les humains, ça n'avait plus de sens, c'était terminé. Et là, voilà la véritable conversion de Pierre. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, bien sûr, il y aura d'innombrables rechutes de sa part, oui, et aussi des milliers d'occasions où les chrétiens oublieront ce message, se croiront autorisés à condamner ou même à purifier, y compris par le feu. Et bien pourtant, à partir de ce moment-là, l'essentiel est déjà dit. On ne doit dire d'aucun humain qu'il est souillé ou impur. Et cette phrase, bien sûr, elle s'adresse à chacune et chacun de nous, parce qu'elle exprime tout simplement l'amour universel. Et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble qu'elle n'est pas toujours facile à entendre et encore moins à respecter. C'est tellement plus facile, tellement plus rassurant de cultiver la haine, le mépris ou tout simplement l'indifférence envers nos frères humains. Tous nos frères humains, sans nous sentir obligés d'essayer de les comprendre et de les respecter. Et c'est pourquoi je vous ai proposé cette réflexion en deux temps depuis dimanche dernier aussi. Parce que comme Pierre, comme les juifs nouveaux chrétiens qui l'écoutent, pour devenir vraiment humains, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire, nous avons grand besoin que l'Esprit Saint nous tombe dessus pour nous aider à nous ouvrir aux autres, à tous les autres. Qu'il nous donne le don des langues pour nous permettre de vraiment les rencontrer et les respecter. Alors quand je dis que nous avons besoin de recevoir l'Esprit, je ne veux pas dire par des visions ou des manifestations surnaturelles, mais tout simplement en nous ouvrant à sa présence dans nos cœurs. Et d'ailleurs, c'était déjà peut-être le sens de la vision de Pierre. Ils devaient se poser déjà des questions. Ces questions, elles traversaient déjà l'Église. Et peut-être que quand il a eu cette vision, c'était une réponse à ces questions qu'il se posait. Car nous avons besoin, comme Pierre, de continuer à nous convertir pour aimer plus. Et pourquoi ? Parce que cette conversion, cette ouverture à la nouveauté et à l'écoute, elle ne nous est pas demandée une fois, mais en permanence. Parce que rien n'est plus facile que d'y renoncer, de l'oublier. En 2 jours, Pierre a appris, il me semble, la véritable humilité, celle qui consiste à renoncer à ses certitudes, à ses conformismes. Il a entendu, il a compris, il a accepté un message divin qui lui disait le contraire de ce qu'on lui avait enseigné toute sa vie, comme un principe religieux immuable. Il a découvert le sens de la véritable fraternité. Il a relevé un non-juif en lui disant « Moi aussi, je suis un être humain. Nous sommes différents, mais je suis ton frère en humanité. » Et pour finir, il a découvert que la grâce de Dieu en Jésus-Christ par le don de l'Esprit n'était pas réservée aux Juifs, mais offerte à tous. Je vous rappelle la phrase « Tous les croyants circoncis furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit et de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. » Elle peut nous faire sourire aujourd'hui, cette phrase. Ça nous paraît tellement normal. C'est le contraire qui nous paraîtrait scandaleux. Eh bien voilà, ils furent stupéfaits. Mais ils l'ont entendu. Et c'est très important, cette deuxième petite Pentecôte. C'est très important, y compris qu'elle soit située dans le livre des Actes par Luc à la fin de ce chapitre. Parce que c'est une manière pour Luc d'affirmer que la foi chrétienne que les non-juifs ont découverte a autant de valeur que celle des juifs circoncis. On pourrait très bien imaginer une hiérarchie très rapidement, qui s'installerait très rapidement. Et donc, Luc peut-être démine le terrain. Ils reçoivent aussi l'Esprit Saint. Ils n'étaient pas à la Pentecôte, mais là, ils reçoivent l'Esprit Saint. Et leur baptême aura autant de valeur que celui reçu par les juifs convertis au christianisme. Et donc, il y a en effet de quoi se réjouir. Et il y a de quoi parler en langue, car le baptême que Corneille et toute sa maison vont recevoir, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, le signe de cette grâce que nous sommes tous invités à demander et à recevoir, parce que cette grâce peut nous aider à proclamer qu'aucun être humain n'est ni souillé ni impur. Elle peut nous aider tout simplement à aimer. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter avec moi le cantique 289, mais j'ai oublié de le signaler, je vous propose de ne chanter que les quatre premières strophes. On va la cinquième, elle est bien, mais elle édulcore un petit peu le sens de ce beau cantique. Donc les 289.
Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'agent âge, il nous accorde tout. Quand la pitié du Maître plaît dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera. Heureux de la victoire qu'il nous donne déjà.
Je vous invite à vous asseoir. Je crois que c'est le moment de l'offrande. Et donc, on sera heureux. En fait, je n'ai pas pris un petit peu d'orgue. Pendant l'offrande, un petit peu d'orgue. Il n'y a pas de problème ? Non ? Après ? Ça ne t'ennuie pas ? Merci beaucoup. Donc, nous prions pour remercier Dieu de nous donner la joie d'offrir. Nous avons besoin de notre Église et notre Église a besoin de notre offrande. Amen. Alors c'est le moment normalement des annonces, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un du conseil presbytéral qui veut en faire une? Ou pas du conseil presbytéral d'ailleurs? Un grand merci à Michel pour cette petite visite. Un grand merci à Fred pour son chaleureux accompagnement. Oui.
Oui, alors, donc c'était le dernier culte aujourd'hui. Et le culte de rentrée, de mémoire, si je ne me trompe pas.
Alors, le culte, les cultes reprennent le 2 septembre. Le culte de rentrée, voilà, c'est le 30 septembre.
2 septembre, le culte de rentrée, c'est le 30 septembre mais, et le 16. Mais donc le foyer de l'âme est fermé, donc d'aujourd'hui, dimanche, jusqu'au 2 septembre. Hein. Il y aura des cultes camerounais qui vont se dérouler ici, ou malgaches, hein, mais je dirais le temple proprement dit, le foyer de l'âme proprement dit au niveau des cultes du dimanche, sera donc fermé. Voilà, donc rendez-vous à tous à la rentrée, dans la joie, la bonne humeur, et je vous souhaite donc d'excellentes vacances. Voilà.
Et je me permets de vous annoncer déjà deux dates, en plus du 2 septembre. Pour que, d'abord, je donne quelques informations. L'année prochaine, en moyenne, le conseil presbytéral m'a demandé de faire un culte sur deux, de manière à pouvoir inviter, c'est la tradition, d'autres prédicateurs, des pasteurs d'autres églises locales. Mais au mois de septembre, j'en ferai en fait 4 sur 5. Et en particulier, je vous invite dès à présent au culte du 16 septembre, qui sera mon culte d'accueil et d'envoi en mission par le président de région, le pasteur Bertrand de Cazeneuve. Voilà, donc je serai évidemment heureuse de votre présence qui me portera, et puis bien sûr le culte de rentrée le 30 avec la reprise de toutes les activités. Il n'y a pas une séance d'école biblique avant le 2? Ah ben voilà, donc le 2 septembre il y a la première séance d'école biblique pendant le culte. C'est bien, merci beaucoup. Alors je vous propose, pour nous unir dans la prière d'intercession, que nous conclurons par le Notre Père, et je vous propose aujourd'hui de le conclure par le Notre, encore par le Notre Père que vous avez sur la feuille qui a été distribuée, qui est le Notre Père que Vincent a proposé à cette église pendant longtemps. Là aussi, on fera tourner la liturgie. Je vais vous proposer une prière qui a été publiée il y a quelques mois dans Évangile et Liberté, et je vous propose de la dire, de la prier, de la penser en union, d'abord avec l'église locale de Luneray en Normandie, où notre présidente de conseil presbytéral, Valérie Lobry, est exactement en ce moment, à moins qu'elle ait déjà terminé, en train de présider et de célébrer le culte. Et puis, surtout, portons dans la prière, bien sûr, tous ceux qui sont dans les difficultés, malades, déprimés, celles et ceux qui souffrent de solitude. Portons dans la prière ceux qui ne pourront pas partir. Et unissons-nous aussi dans les moments de joie. Pensons les uns aux autres dans les moments de joie, dans ces rencontres. Les rencontres que les vacances vont nous permettre, les retrouvailles familiales, les joies, tout simplement, que le Seigneur nous donnera de vivre et dans lesquelles nous pourrons peut-être discerner sa présence. Seigneur, merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter nos tentes et de nous installer là, près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui doutent. Mais toujours à nouveau, tu nous appelles et nous avons du mal à repartir. Descends et pars sans hésitation. Tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Et c'est au milieu d'eux que nous te disons, notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, vous pouvez le dire avec moi si vous le souhaitez, notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est au-dessus de tout nom. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations du mal et de la mort. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose de préparer le cantique 389. Que nous chanterons en entier, et avant cela, de vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Prenons le temps de jouer, le temps de rire. C'est une gorgée d'eau fraîche. Prenons le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenons le temps d'aimer et d'être aimé. C'est une grâce de Dieu. C'est notre force sur la terre. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Le Christ ressuscité vous accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous prenons le cantique 389, demeure par ta grâce.
Notre cœur éternel.
Merci Fred pour cette musique qui va nous accompagner tout l'été. Très bonnes vacances à tous.